Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Nous nous retrouvons avec un nouveau tome 1 cette semaine, déjà la semaine dernière, et étrangeté du sort, eh bien, ce tome 1 sera lui aussi suivi de deux autres tomes. Alors, la semaine dernière, allez, je mentionne le livre de Pierre-Henri Gaumont, Slava, tome 1 après la chute, une parution d'Argo, et nous sommes toujours chez d'Argo. Non, rassurez-vous, nous ne sommes absolument pas financés par d'Argo, mais voilà, ce sont les parutions, et puis l'intérêt de ces parutions qui nous amène à cela. Nous sommes en compagnie d'un auteur turc, et c'est pas si souvent que cela, donc ça mérite d'être souligné.
C'est sans doute la première fois que nous parlons d'un auteur turc de bande dessinée.
Je crois.
Parce qu'on n'a pas mentionné Gürsel, qui dessine les Foot Furieux.
Que je ne lis que très très rarement, et franchement.
Dont je lis la couverture, mais pas plus.
Voilà.
Mais c'est un valeureux artiste.
Et là, il s'agit d'Ersin Karabulut, on prononce ainsi en ce qui nous concerne. Hein.
Que lui, on a déjà vu et apprécié récemment.
Voilà, vous allez nous en dire un petit peu plus dans quelques instants, et nous allons partager ensemble donc le premier volume du journal inquiet d'Istanbul, donc d'Ersin Karabulut. Auparavant, là c'est chez d'Argo, il y avait deux albums qui étaient parus chez Fluide Glacial.
Oui, deux albums alors très différents, enfin identiques dans leurs propos l'un et l'autre, mais très différents de ce qui nous est proposé aujourd'hui. C'était des albums de, je dirais pas de science-fiction, d'anticipation très très sombre, un fantastique très torturé, très inquiétant, à base de transformations, d'absurdes. On était quelque part entre Topor et les premiers films de Polanski, enfin c'était étonnant, et ça laissait penser que c'était vraiment l'univers familier et habituel de Ersin Karabulut. Et changement de braquet, pour celui-ci, on est dans l'autobiographie, qui m'a rappelé un livre récent, une biographie du président Erdogan.
Effectivement, qui est paru il y a quelques mois en arrière.
Un personnage majeur dans cette autobiographie, puisque c'est le passage de l'enfance à l'état de jeune adulte d'un dessinateur de presse satirique dans la Turquie, victime des convulsions de l'histoire, quelque part héritière de l'Empire ottoman, bouleversée par la politique d'Atatürk, menacée par les truands ou les islamistes, et sous l'éteint noir, sous la coupe du président Erdogan, qui est un personnage odieux.
Oui, qui utilise un petit peu tout ça, enfin, à sa sauce, quand ça l'arrange. Bon, j'espère qu'on ne va pas être visité par un certain nombre de personnages au large sourire, mais au regard un peu inquiétant. On en trouve dans ce livre, d'ailleurs.
En tout cas, c'est un livre qui est un témoignage du courage de ceux qui publient dans la presse satirique turque, parce qu'ils se moquent vraiment très fort du président Erdogan, d'une façon très très méchante, et c'est bien mérité.
Et direct, oui.
Et le faire sous une dictature où on peut se retrouver en prison, sans procès, du jour au lendemain, du matin au soir même, j'irais, ben c'est quand même sacrément courageux.
Ersin Karabulut est né au début des années 80, donc ça situe un petit peu la période encore, hein, plus précisément. Et là, dans ce premier tome, on le voit enfant et devenir jeune adulte.
Oui, c'est quelqu'un qui naît dans un milieu très modeste, où le dessin a beaucoup d'importance, au point qu'il, comme on dessine dans son foyer, il pense que tout le monde dessine. La voisine dessine, il y a une séquence très drôle, totalement hors de propos, où les voisins échangent l'état d'avancement de leur projet de dessin, ce qui est une fiction totale, mais vraiment à mourir de rire. Parce que je le disais, c'est un livre très très drôle. C'est un livre sans complaisance, parce que Ersin Karabulut se met en scène de façon pas souvent flatteuse, dans ses faiblesses, ses manques à l'école, ses renoncements, son manque de courage à certains moments face au climat de danger permanent, ses renoncements à la fidélité envers sa copine qui l'a beaucoup aidé à un moment, et finalement, quand il devient célèbre, il est courtisé par les filles, donc à ce moment-là, oui, vous venez prendre un verre, etc. Donc,
on n'en dira pas plus.
Voilà. Mais tout ça est très touchant, très drôle, et c'est vraiment un portrait de rétrospectif, parce qu'on repart de l'Empire ottoman, de la politique d'Atatürk, de l'ouverture à l'Occident, de l'occidentalisation,
voilà, je pense,
de la Turquie. Des années, alors je ne savais pas, où régnait en Turquie un climat de quasi-insurrection, les malfrats couraient les rues, l'intimidation n'a lieu de loi. et l'arrivée d'Erdogan, qui est une espèce d'attrape-tout, qui est dévoré par l'ambition, qui se sert de la démocratie. Il emploie un parallèle, c'est que la démocratie est un train qu'on abandonnera en gare quand on n'en aura plus besoin, qui se sert des islamistes.
Il a dit ça, enfin, hein, je précise au passage.
Oui, c'est alors, une véritable c'est une citation. Oui. C'est saisissant, ça abonde de détails drôles qui concernent Ersin Karlaboulout, mais indirectement la bande dessinée occidentale franco-belge adaptée en Turquie, parce qu'il s'aperçoit un moment que pour des questions de format, par exemple, les cases des albums de Tintin sont complétées.
Oui, parce que le format est plus large.
Voilà,
Turquie.
Donc complété, mais avec un style graphique qui a peu à voir, qui est assez approximatif. C'est vraiment très drôle. C'est très drôle, c'est très souvent très émouvant. C'est un autre exemple, après, alors au sens large du terme, Marjane Satrapi, Riyad Satouf, d'auteurs qui évoquent la société orientale, leur vie sous la dictature et leur regard, regard d'enfant, on pense à Riyad Satouf ou même à Marjane Satrapi qui était très jeune au début de la révolution islamique en Iran, un regard candide, le mot est peut-être fort, mais leur regard éberlué en tout cas sur un régime autoritaire en marche.
Vous faisiez le parallèle avec Riyad Satouf et Marjane Satrapi, mais on peut faire aussi le parallèle avec des auteurs de bandes dessinées espagnoles, parce qu'il y a quelques similitudes quand même avec la dictature de Franco, quelque part.
Hein. Bon, alors on y pense parce qu'on met en scène des personnages qui sont des dessinateurs. On les met en scène dans une dictature qui est... Alors, c'est pas la Russie soviétique de Staline, c'est pas l'Allemagne nazie d'Hitler. C'est une espèce de chape de plomb. Alors, je pense à l'hiver d'un dessinateur de Paco Roca, ou les albums de Jiménez qui se passent aussi à la fin de l'Espagne franquiste, la période franquiste espagnole. C'est une espèce de quotidien dans un régime autoritaire très plombant, très noir, très étouffant, où il y a des quartiers dans certaines villes où il y a un peu, on respire, on peut penser autrement, on peut s'habiller autrement, on peut dire des choses autrement, mais il y a une menace permanente et une angoisse. Il faut quand même tout le temps réfléchir et parfois avoir beaucoup de courage pour s'exprimer.
Alors c'est vrai que ça se passe à Istanbul et que dans Istanbul, enfin, moi je n'y suis jamais allé personnellement, mais si j'ai bien compris, il y a des quartiers qui sont beaucoup plus occidentalisés que d'autres. Hein. Il y a cet espace-là. Je reviens sur des choses que vous avez déjà mentionnées, Thierry, mais moi elles m'ont vraiment beaucoup étonné. C'est que la présence de la bande dessinée franco-belge, elle n'est pas seulement pour Ersin Karaboulout, mais elle est présente au sein de la société de l'époque turque. Tintin, Astérix, on lit ces bandes dessinées-là, là-bas.
Oui, je ne savais pas qu'elles étaient aussi bien diffusées, quitte à être un peu caviardées, comme on l'évoquait. C'est une séquence très drôle, à envahir l'imaginaire du personnage qui, quand il est dans des moments d'introspection, il voit débouler dans sa chambre des personnages de la BD franco-belge. Tintin, effectivement, ou du comics, Superman, Rantanplan.
Lucky Luke.
Ouais. Lucky Luke. Qui l'interroge sur « qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu as raison de faire ça ?» Et puis « sache-le, on ne t'abandonnera jamais ». C'est très touchant. Et en plus, ils sont très bien dessinés. Ils imitent très bien le style. Ils pourraient reprendre Tintin. Non, ce n'est pas une suggestion.
Je ne crois pas que ce soit possible, d'ailleurs, malheureusement. Ensuite, vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme « courage », et moi, c'est ce qui m'a séché dans ce récit. Parce que je ne l'ai pas ressenti chez d'autres auteurs qu'on a mentionnés là et précédemment. Mais cet homme, ce dessinateur qui reste en Turquie alors qu'il sait très bien qu'il peut finir ses jours en prison, moi ça me sèche. Hein. Ça ne s'est pas fait d'un seul jour, en un seul jour, mais aujourd'hui c'est bien le cas. Cet homme a choisi d'occuper toute sa place malgré les difficultés.
Oui, parce qu'on nous donne des exemples au fil du récit. Des dessins qui ont été publiés sur Erdogan, c'est d'une méchanceté, alors tout à fait mérité, je le précise, mais c'est très méchant. C'est donc très courageux, c'est pas de la satire à l'eau de rose, ni en demi-teinte, c'est vraiment une vision très, très mordante, donc très courageuse. Très courageuse, ça fait réfléchir à que ferions-nous nous-mêmes.
Alors ça c'est sûr, à la fin de la lecture de ce premier volume, moi je me suis dit que j'étais vraiment pas courageux du tout, et on en vient à se demander même à quoi on sert quelque part. Enfin bon, voilà, ça c'est mon introspection personnelle. C'est assez incroyable parce que, en fait, le dessin d'Ersin Karaboulout, on n'en a pas beaucoup parlé, mais
oui, c'est vrai.
Il est à moitié réaliste, un tout petit peu caricatural, mais pas tant que ça en fait. On se sent vraiment concerné.
Oui, il marche sur deux jambes, une forme de réalisme, une forme de caricature, surtout dans son enfance, des grosses têtes, des gros yeux,
des dents qui
avancent. C'est pas flatteur. C'est très percutant, c'est expressif, c'est excellent. cette conversion dans ce volume à l'autobiographie et son histoire est vraiment très intéressante telle qu'il nous la raconte. Alors je vais renouveler mon vœu que j'avais émis avec Pierre-Henri Gaumont, c'est qu'on est très content de savoir qu'il y en aura deux autres.
Peut-être qu'à force d'être dithyrambique, en fait, à la lecture, vous allez être déçu. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais on ne sait jamais. En tout cas, j'ai le sentiment vraiment que là, on a un album de bande dessinée qui s'adresse à un public très large. Et j'espère que la majorité de nos auditeurs vont aller au moins feuilleter ce journal inquiet d'Istanbul, le lire et puis ensuite s'intéresser au prochain volume. C'est une parution d'Argo, Ersin Karabulut. Cherchez à en savoir plus sur cet auteur. Il le mérite véritablement. Merci beaucoup Thierry de nous l'avoir présenté. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. À bientôt.